programme va maintenant se poursuivre en français.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure et comme tous les 15 jours, nous ferons donc le tri de votre courrier. Place sera faite ensuite également à la littérature avec cette semaine un sujet un peu particulier puisque nous vous ferons découvrir l'unique papeterie en République tchèque qui fabrique encore du papier de manière artisanale. Mais avant tout cela, place d'abord à une autre forme de culture avec Alois Nebel au cinéma ou comment l'animation facilite la compréhension du passé. Retour donc avec Anna Kubishta, dans Culture sans frontières sur la sortie en salle prévue le 29 septembre prochain d'Alois Nebel, un film d'animation tiré de la bande dessinée éponyme publiée en 3 volumes. À cheval sur 2 périodes, 1945 et 1989, le récit du chef d'une petite garde de province s'articule autour de deux événements marquants de l'histoire tchèque récente, l'expulsion des Allemands des Sudètes et la révolution de velours. Anna Kubishta nous en dit donc un peu plus.
Alois Nebel est un personnage taciturne et solitaire, chef de gare dans une petite commune de province, dans la région des Jesenice, une chaîne de montagnes à la frontière polonaise. Nous sommes à l'automne 1989, à l'heure où le régime communiste s'effrite en Tchécoslovaquie, mais rien de tout cela ne semble réellement toucher cet homme, hanté par une histoire plus ancienne, remontant à l'immédiate après-guerre. Alois Nebel est le personnage principal d'une trilogie de bande dessinée. Il est né de la plume de l'écrivain Jaroslav Rudiš.
À l'origine de cette histoire, il y a mon grand-père qui s'appelait Alois Rudiš et qui travaillait comme cheminot dans la région des Sudètes. Il y a vécu l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'expulsion des Allemands des Sudètes. Il est mort bien avant ma naissance, mais j'ai toujours eu envie d'écrire quelque chose sur son histoire, qui m'a toujours inspiré. Je voulais écrire un récit autour d'une petite gare secouée par l'histoire, autour d'un personnage qui devient fou parce que tout ce passé n'a pas été digéré.
Ce passé non digéré, c'est celui des régions frontalières de la Tchécoslovaquie, peuplées depuis des siècles par une minorité allemande dite des Sudètes, des populations qui seront chassées manu militari après la défaite de l'Allemagne en 1945. Miroslav Krobot est le comédien dont le visage a servi de base à la version animée pour le cinéma. Il est lui-même originaire de cette région, marqué par l'histoire.
C'est une région très particulière où les nationalités ont toujours été mélangées. Les montagnes sont tristes dans cette région où tant de personnes ont été chassées. Là-bas, il y a beaucoup de choses cachées dont on ne parle pas. Cela ne fait que quelques années qu'on commence vraiment à en discuter.
Dans le film d'animation Alois Nebel, cette région des Sudètes est un personnage à part, dans lequel évolue ce chef de gare un peu particulier qui perd son travail à force de ressasser ce passé douloureux qu'il a vécu enfant. Son nom Nebel en allemand signifie brouillard, comme s'il se fondait dans ce paysage un peu fantomatique des Jesenice. Jaroslav Rudiš.
Ce personnage principal est un cheminot solitaire qui aime les trains. Il collectionne les fiches horaires des trains et des souvenirs du passé lui reviennent dans une sorte de brouillard, comme son nom, Nebel. Il a d'ailleurs un peu de brume, de brouillard dans la tête. Il devient un peu fou. La région est d'ailleurs assez brumeuse. Ça fait partie de l'atmosphère, le brouillard, le mauvais temps. Je dois dire que dans le film, ces passages où le paysage est mis en valeur, où l'on voit la violence des éléments naturels comme l'orage, la pluie, ce sont les monuments visuels les plus forts. Cela vous embarque directement dans cette région.
Dans l'ombre du chef de gare, un personnage muet, comme l'indique aussi son nom en tchèque, Niemi, qui, né du viol de sa mère expulsée, revient la venger des années après. La bande dessinée et par là même le film d'animation serait-il des moyens plus efficaces d'aborder des thèmes historiques douloureux, comme semble le prouver ces dernières années Jaromir 99, le dessinateur d'Alois Nebel.
Je pense que oui, dans la BD, ce genre fonctionne. Il suffit de penser à la BD de Josako qui se déroule en Yougoslavie. Ça rapproche les gens de la guerre et ça facilite la compréhension d'une situation. Je ne sais pas pourquoi la BD possède cette force, mais c'est le cas. Il y a une réelle tendance à faire de la BD humaniste documentaire.
Pour Jaroslav Rudiš, l'auteur du récit, le succès d'Aloïs Nebel a été presque une surprise dans un pays où la bande dessinée n'a qu'une maigre tradition.
La BD en tant que telle est un média intéressant et puis j'ai tout de suite aimé le dessin en noir et blanc de Jaromir, très cru, très brutal. Mais l'histoire n'est pas si noire et blanche. Les personnages sont pleins de nuances. Au début, nous nous sommes dit que ce serait un peu notre petit film, sans savoir que cela pourrait avoir du succès en République tchèque.
Pour Jaromír 99 aussi, la saga Aloïs Nebel est allée bien plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer lorsqu'il se souvient des débuts de la bande dessinée.
La BD est née un peu de façon punk. Nous n'avions pas vraiment idée où cela allait nous amener. Le premier tome est né en quelques jours, dans un bar. Nous avions surtout envie d'essayer ce genre-là, la BD. Nous étions plutôt des débutants en la matière, mais après l'apparition du premier tome chez Labyrinthe, l'éditeur nous a convaincus de faire encore deux autres volumes. Mais tout cela a continué à se faire aussi de manière assez spontanée, sans plan précis. Par contre, pour faire le film, c'est plus compliqué. Il fallait résumer ces trois tomes en un et changer certaines choses. En BD, ce qui marche bien, c'est le principe du héros qui parle en voix intérieure, ce qui permet d'expliquer des situations. Nous avons décidé que ça n'irait pas avec le comédien Miroslav Krobot, qu'il vaudrait mieux qu'il joue simplement et qu'il soit silencieux. C'est donc au public de deviner ce qu'il pense. Donc le plus difficile, c'était de résumer toute l'histoire en un long métrage et découper les dialogues de telle manière que ce soit toujours Aloïs Nebel.
Et c'est pour garder l'originalité de la bande dessinée que le long métrage d'animation a été réalisé avec une technique particulière, la rotoscopie, comme l'explique Pavel Sternad, le producteur.
Visuellement, cela rappelle Valls avec Bachir, même si ce film a été fait avec une autre technique que la nôtre. Ce film est beaucoup plus stylisé, si vous pensez aux personnages, tandis que les dessins de Jaromír 99 sont plus réalistes. Et ensuite, nous avons eu recours à de vrais acteurs dont les figures ont été redessinées, contrairement à Valls avec Bachir, où tout est animé.
Et on écoute encore Miroslav Krobot qui incarne le personnage principal du film.
D'une certaine façon, l'animation a un côté exclusif et donc attractif. Le fait que la stylisation soit combinée avec un thème grave, je pense que cela peut attirer les gens et les inciter à s'intéresser à ce type de thématique. Du moins, je l'espère.
En tout cas, le film Aloïs Nebel séduit à l'étranger, à l'instar de Valse avec Bachir. Les droits du film ont déjà été achetés en France. Présenté à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto, il a été remarqué par la critique, qui a même été jusqu'à évoquer une filiation avec Train étroitement surveillé, le film oscarisé de Jiří Menzel. Une filiation que ne renie en rien Jaroslav Rudiš, bien au contraire.
C'est notre film préféré à tous. J'y ai aussi pensé, à ces trains étroitement surveillés. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'auteur du livre d'origine, Bohumil Harabal. C'est un de mes écrivains préférés. Et je pense que j'ai écrit la BD sous son influence. Et le fait qu'Aloïs Nebel ait été comparé à Toronto au film de Menzel, c'est un vrai compliment, car c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma tchécoslovaque. Jiří Menzel est un réalisateur extraordinaire dont j'apprécie les films. Donc oui, et il doit y avoir de tout cela dans Aloïs Nebel, même si j'ai quand même plus pensé à mon grand-père.
Ale já jsem teda víc než na ty ostře sledovaný vlaky myslel na toho dědečka svýho. Alois Nebel aussi en grande partie entre les flashbacks vers le passé de l'après-guerre et la fin du régime communiste. Même si la révolution de velours n'y est pas traitée en tant que telle, on apprend par bribes qu'une page d'histoire est en train d'être tournée en ces derniers mois de 1989. Si celle-ci n'apparaît qu'en filigrane du récit d'Alois Nebel, ces deux pivots temporels déterminants pour l'histoire de la Tchécoslovaquie rejoignent la grande histoire, celle d'un XXe siècle européen secoué par de nombreux bouleversements. Jaroslav Rodich.
C'est clairement une histoire centre-européenne qui est compréhensible déjà dans tous les pays environnants, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie ou l'Allemagne. Mais je veux croire que même si le contexte historique peut au premier abord sembler peu clair, il reste l'histoire personnelle d'Alois qui est universelle. Il perd son travail, il est poursuivi par le passé, il a subi un traumatisme et doit reprendre pied, il doit aussi tomber amoureux. Pour moi, c'est aussi une grande histoire d'amour, même si elle est tardive dans sa vie. Je pense que ça fonctionne. L'histoire est un peu en retrait, même si elle est présente, et c'est aussi le récit d'une région particulière, cette région difficile qui joue un grand rôle.
My tady máme teď trošku jiný starosti, jestli mi rozumíte.
Nevím, co mám dělat.
Spí?
Jak kdy?
Právě docela v cajku, Alois. Ta mašina má vepředu takový jako velký
prsa.
Sada pes.
Lisičku.
Vy se vždycky uměli zeptat.
Halleluja. Halleluja.
Comme promis, place maintenant à l'une de vos rubriques préférées, et pour cause, puisqu'il s'agit d'une rubrique dans laquelle la parole vous est laissée. Malheureusement, le courrier est peu abondant ces derniers temps, et nous le comprenons, même si, comme vous allez l'entendre avec Magdalena Rosinkova, certains d'entre vous, toujours fidèles au poste, si on peut dire les choses comme ça, continuent de nous écrire.
Courrier des auditeurs. Magdalena Rosinkova.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du courrier des auditeurs, une émission réservée à vos lettres, questions, remarques et suggestions, bref à tout ce qui vous intéresse et qui est en rapport avec nos programmes. Commençons par le courrier de notre collègue, on pourrait presque dire, Fabien Battesti de Lambersart en France, il nous écrit.
Bonjour à toute l'équipe de Radio Prague, je vous souhaite un très bon anniversaire, je trouve enfin le temps de vous écrire ces quelques lignes. Depuis ces derniers mois, je suis plutôt occupée. De mars à août, j'ai effectué mon stage de fin d'études à la radio-télévision belge francophone dans leurs locaux à Namur. Et depuis septembre, j'ai décroché un travail temporaire, toujours à la RTBF, mais à Bruxelles. Ce n'est qu'à de rares occasions que j'ai pu suivre vos programmes, principalement grâce à l'application pour iPod, iPod Touch. Bonne continuation pour les 75 ans à venir.
Motomo Fikai de Tokyo nous a écrit lui aussi à l'occasion du 75e anniversaire de Radio Prague que nous avons célébré le 31 août dernier. Il a bien été cité par Václav Richter dans le courrier des auditeurs et notre auditeur japonais s'en félicite.
Je suis vraiment ravie de vous avoir entendu lire mon email dans le courrier des auditeurs. Je pense qu'un grand nombre de lettres et d'emails sont arrivés à votre station du monde entier et j'ai été surpris de savoir que mon message ait été choisi et présenté dans l'émission.
Voici un autre message tout récent de Motomo Fikai. Il réagit à l'émission Panorama du mardi 20 septembre où Anne-Claire Veluire s'est intéressée à la situation des musiciens de rue en République tchèque, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer face aux autorités et à l'initiative Buskerville qui promeut la musique de rue en République tchèque. Monsieur Kai nous donne son point de vue.
Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait pour la musique de rue parce que si on est trop permissif, ce sera le chaos dans les rues. Je ne soutiens pas l'idée que chacun puisse jouer dans la rue, parce qu'il faut préserver le calme et le silence dans la vie quotidienne. Il faut limiter plus ou moins. Sinon, ce sera la catastrophe.
Merci, Monsieur Kai, d'avoir partagé avec nous et avec les autres auditeurs de Radio Prague votre opinion. À Tokyo, nous avons également un autre auditeur fidèle, Osamu Aikawa. Il nous écrit.
Comme j'ai promis de rester en contact avec vous après la fin de la diffusion en ondes courtes, j'envoie aujourd'hui à Radio Prague mon 31e rapport d'écoute. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous écrire davantage. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai déjà reçu toutes les cartes QSL de Radio Prague de 2011, 2010, 2009, 2008 et 2007. J'aimerais recevoir aussi celle de 2006 ou la carte spéciale éditée à l'occasion du 85e anniversaire de la radio tchèque. Parce que je ne les ai pas collectées. J'étais à l'époque un auditeur silencieux.
Merci Monsieur Aikawa de votre message. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Les cartes QSL que vous souhaitez recevoir vous seront envoyées très prochainement par notre secrétaire. C'est avec un grand plaisir que nous avons trouvé dans notre boîte aux lettres le rapport de réception de notre fidèle auditeur et correspondant du temps des ondes courtes, Roger Roussel du Canada, qui nous écoute actuellement sur Internet. Roger Roussel a particulièrement apprécié le dimanche musical consacré le 28 août dernier au compositeur tchèque Václav Jan Tomášek. C'était une émission animée par Václav Richter. Merci Monsieur Roussel pour votre message et merci également pour les autocollants, les cartes postales et autres petits cadeaux que vous nous avez fait parvenir depuis votre beau pays. Nous sommes heureux d'avoir des nouvelles de Philippe Marson de Biganos en France. Avec lui, nous revenons au 75e anniversaire de Radio Prague. Philippe Marson nous écrit.
Ce 31 août, je n'ai pas pu être à l'écoute, pas de QSL. Actuellement, j'essaye d'écouter les émissions commémoratives avec beaucoup de retard, ma foi. Émouvant, les journalistes qui racontent cette histoire de la Tchécoslovaquie après 1948, puis après 1968. Né en 1950, je suis heureux d'avoir été français et de profiter de cette grande liberté offerte par notre République, la 4e, puis la 5e. Je pense à ces amis tchèques, souvent radio-amateurs, qui ont à peu près mon âge maintenant, soit environ 60 ans, et qui ont connu le printemps 68. En France, il a abouti vers plus de social, plus de droits, notamment pour les femmes. En Tchéquie, ce fut l'occupation, puis la normalisation. Mais ces pays occidentaux, Angleterre, France, États-Unis, n'ont-ils pas laissé un peu dans l'oubli cette Tchécoslovaquie de 1968, rappelant les douloureux instants de 1938 ? À méditer, chers amis.
C'est sur cette réflexion de Philippe Marson que se termine ce numéro du courrier des auditeurs de Radio Prague. Merci à André Bio de Romeray en Belgique, à notre auditeur marocain Zinedi Abdelhamid, ainsi qu'à Pascal Tardy et William Ancur de France qui nous ont envoyé leur rapport d'écoute. Merci de suivre et de commenter nos programmes. Vous trouverez tous les contacts de la rédaction sur notre site internet www.radio.cz/fr. Le courrier des auditeurs sera de retour dans 15 jours. Au revoir.
Et puis la troisième rubrique du jour est donc la rubrique littéraire, une rubrique littéraire dans laquelle Václav Richter vous emmène dans la commune de Velké Losiny en Moravie, où se trouve l'unique et dernière papeterie en République tchèque qui fabrique encore aujourd'hui le papier de manière artisanale.
Rencontre littéraire. Le livre est fait de papier. L'histoire du papier fait donc partie de l'histoire du livre. Depuis des siècles, la production du papier répond aux besoins des écrivains et des éditeurs, reflète en quelque sorte le niveau spirituel de la population. La papeterie de Velké Losiny, située en Moravie du Nord, est un monument vivant de l'histoire de la production du papier et des livres dans les pays de la couronne tchèque. Le directeur de la papeterie de Velké Losiny, Jan Jurčík, constate que la production du papier dans cette manufacture ne s'est pas arrêtée pratiquement depuis le XVIe siècle.
C'est une des papeteries les plus anciennes d'Europe. Elle a été fondée entre 1591 et 1596. Actuellement, c'est la plus ancienne et l'unique papeterie où le papier est fabriqué à la main. Elle fonctionne véritablement depuis plus de 400
ans. La commune de Velké Losiny est située dans une contrée pittoresque, à la beauté un peu mélancolique, au pied du massif de Jeseniki en Moravie du Nord. Le domaine de Velké Losiny a appartenu depuis 1495 à la famille des Gerotin, une des plus importantes familles aristocratiques de Moravie et de Bohême. Ce sont les Gerotin qui ont construit à Velké Losiny un manoir transformé au début du XVIe siècle en un château Renaissance d'un style pur et admirable. Jan Jurčík de rappeler que les Gerotin ont également fondé près du château une papeterie.
C'était l'idée de Jan de Gerotin, fils qui, entre 1590 et 1596, s'est établi dans le domaine de Velké Losiny et a fondé la manufacture de papier, mais aussi le château et la station thermale sur les sources d'eau minérale sulfureuse. Tout d'abord, le papier fait à la main était une rareté précieuse et n'était utilisé que par la noblesse. Avec le temps, il allait devenir cependant un objet d'usage quotidien et au cours du XIXe siècle, il a été remplacé par le papier fabriqué de manière industrielle.
La manufacture de Velké Losiny a survécu à des guerres, à des révolutions et même à la révolution industrielle qui s'est avérée fatale pour presque tous les ateliers où le papier était fabriqué à la main. Cette vieille méthode ne pouvait pas rivaliser avec la technique industrielle. Les mains des ouvriers ne pouvaient pas se mesurer aux machines qui crachaient chaque jour avec une rapidité prodigieuse une énorme quantité de papier bon marché. En 1778, le comte Jan Ludwig de Gerotin vend la manufacture au maître papetier Matthias Werner et en 1855, la papeterie est revendue à Anton Schmidt. C'est grâce à l'ingéniosité de ce dernier que la fabrication du papier fait main à Velké Losiny résistera à la concurrence de la grande industrie. Il apporte quelques innovations techniques tout en gardant la production du papier à l'ancienne. La découverte des excellentes qualités du papier fait main et plus tard l'engouement des milieux artistiques pour le papier artisanal permettent finalement à la manufacture de Velké Losiny de surmonter les temps difficiles et de se maintenir sur le marché. En 1949, la manufacture est affiliée à la société Olchanské papírny, qui réunit plusieurs papeteries industrielles de Moravie du Nord, tout en gardant son caractère artisanal. Et finalement, en 2006, elle s'émancipe et devient une société par action, qui s'appelle désormais Ruční papírna Velké Losiny, manufacture de Velké Losiny. Son directeur Jan Jurčík présente sa production actuelle.
Je to papír, ale samozřejmě jeho složení je...
C'est évidemment du papier, mais il est composé de pure fibre de coton. On peut dire donc que, dans une certaine mesure, il n'y a pas de différence entre une étoffe de coton non tissée et du papier fait à la main.
La pâte qui sert à la fabrication du papier est un mélange de fibres de coton, de lin et d'eau. La matière ainsi obtenue est versée sur des tamis spéciaux où elle est égouttée et homogénéisée par un mouvement de branlement. Elle se densifie et devient compacte. Les feuilles sont ensuite enlevées des tamis, empilées sur des plateaux, pressées, séchées et laminées entre deux rouleaux. Le processus est donc relativement compliqué et assez long, mais le résultat en vaut la peine. Une feuille de papier faite main est bien différente de la production courante. Les papiers sont fabriqués une feuille à la fois et le grain de surface du papier fini est un peu rugueux. Les feuilles ne sont pas coupées mais ont des bords frangés sur les quatre côtés. La grande partie du travail est réalisée par les mains des artisans et la mécanisation n'intervient que dans quelques étapes du processus. Les rares mécanismes utilisés, dont une pile appelée Hollander, qui broie des fibres pour la pâte à papier, sont historiques. Les matières utilisées sont naturelles et sans additifs chimiques. Jan Jurčík répertorie les utilisations diverses du papier artisanal.
En ce qui concerne le papier fait à la main, c'est l'objet principal de notre production. Nos clients principaux sont bien sûr des institutions d'État, des sociétés privées aussi et des acheteurs individuels. Nous manufacturons du papier à lettres classiques pour la correspondance personnelle. Nous fabriquons des diplômes, des certificats. Nous livrons du papier pour l'impression des livres pour bibliophiles, pour les imprimés officiels et représentatifs. Et bien sûr, le papier utilisé par les artistes pour l'aquarelle, la gravure et les méthodes d'impression artistique. La gamme de nos produits est vraiment très large.
Ce sont les bibliophiles et les éditeurs des livres publiés à leur intention qui sont les clients importants de la papeterie de Valkelosini. Pour un bibliophile, le livre n'est pas qu'un ouvrage littéraire, mais aussi un objet d'art. Les auteurs des livres d'artistes soignent donc beaucoup leurs œuvres et leurs présentations graphiques. Ils choisissent avec beaucoup de soin les types de caractères, les illustrateurs et aussi la qualité du papier. C'est vers la fin du XIXe siècle que l'art de la bibliophilie et du livre d'artiste a connu un grand essor dans les pays de langue tchèque. De 1908 est fondée l'Association des bibliophiles tchèques qui existera encore au début du XXIe siècle. Les livres pour bibliophiles, en général brochés et illustrés de gravures publiées à cette époque-là, sont aujourd'hui recherchés par les collectionneurs. Il ne s'agit que rarement de romans, mais plutôt de genres de dimension plus modeste, de poésie, d'essais et de recueils de souvenirs. Leur tirage ne devait pas dépasser 200 exemplaires. Les illustrations devaient être signées par leur auteur et chaque exemplaire devait être numéroté et signé par l'écrivain ou le traducteur. Et évidemment, il devait être imprimé sur du beau papier. Ces règles de la production de beaux livres sont valables encore aujourd'hui. Et la papeterie historique de Valkelosini reste un fournisseur incontournable de leurs éditeurs.
Voilà, c'est donc avec la découverte de cette papeterie de Valkelosini, la dernière papeterie en République tchèque, fabriquant encore du papier artisanal, que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt, de nouveau à l'écoute. Ahoy.
Radio Praga continúa.